Radio Prague, les informations.
Le gouvernement tchèque finance une campagne contre les marques de vêtements proches de l'idéologie néo-nazie. Le film Basiji du franco-iranien Mehran Tamadon a été primé au festival de Jihlava et puis décès du peintre Antonín Sládek. Le gouvernement tchèque va financer une campagne nationale contre la mode néo-nazie préparée par la section tchèque du comité Helsinki. La campagne veut attirer l'attention sur la dizaine de marques de vêtements préférées des néo-nazis. Ne soutient pas les néo-nazis, n'achète pas leurs vêtements, peut-on lire sur les affiches de cette campagne. Parmi les marques citées, on trouve Thor Steinar, Bohemia, 88, Constable ou encore Résistance. Avec l'achat et le port de ces marques, tu soutiens les racistes et marques ton appartenance à l'idéologie néo-nazie, prévient le comité Helsinki. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense Martin Bartak a estimé sur le plateau de la télévision publique tchèque que les informations selon lesquelles le gouvernement voudrait nommer Vladimir Dlouhý au poste de commissaire européen étaient des spéculations. Samedi, le quotidien Lidové Noviny avait indiqué que, faute d'un accord entre les partis politiques, le gouvernement de Jan Fischer chercherait un potentiel candidat qui pourrait faire l'objet d'un consensus. Jusqu'ici, le parti social-démocrate a indiqué qu'il soutenait la candidature de l'actuel eurocommissaire tchèque, Vladimír Špidla, tandis que le parti civique-démocrate a présenté la candidature de l'ancien ministre des Affaires européennes, Alexander Vondra. Basiji, le film du réalisateur franco-iranien Mehran Tamadon, a remporté le prix principal du Festival international du documentaire qui s'est terminé ce dimanche à Jihlava. Le prix du meilleur film tchèque a été attribué à Jan Gogola pour Mam rada nudný život, en français « J'aime la vie ennuyeuse ». Le prix du public a été remporté par Martin Marecek pour son film « Automat ». On reparle du Festival de Jihlava juste après ce bulletin. Et puis je vous le disais en titre, le peintre Antonín Sládek est décédé samedi soir des suites d'une longue maladie à l'âge de 67 ans. De nationalité tchèque et française, Sládek était le peintre des belles femmes et des recoins de Paris, selon son ami et le correspondant de Radio Prague dans la capitale française, Jiří Slavíček. Plusieurs expositions lui ont déjà été consacrées en République tchèque, en France, mais aussi au Canada et au Brésil. L'artiste avait également réalisé plusieurs affiches de cinéma, dont les affiches tchèques de Fantomas et de Yellow Submarine, le film des Beatles. Depuis ce dimanche, il est impossible de capter la télévision à Prague et en Bohême centrale si vous n'êtes pas équipé pour la réception numérique. Dans la nuit de samedi à dimanche, a été éteint l'émetteur pragois Tsukrak. La diffusion analogique fait donc définitivement partie du passé dans la capitale et la région voisine. 95% de ce territoire est désormais couvert par la diffusion numérique, d'après Zdeněk Duspiva, le coordinateur national de la numérisation. On termine ce bulletin comme d'habitude avec un mot sur la météo et le temps reste très variable en République tchèque avec des averses prévues pour ce lundi, jour de la Toussaint, mais jour qui n'est pas férié en République tchèque. Les températures sont comprises entre 4 et 8 degrés. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour Culture sans frontières. C'était Alexis Rosenzweig pour le bulletin. Ah !
Culture sans frontières.
Stop a bitch.
Konstrukce. Rukou mít, rukou v mít. Ruka rukou mě, rukou mít, mít v rukou.
Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce de la 13e édition du Festival international du film documentaire qui s'est terminé ce dimanche dans la ville de Jihlava, c'est au centre de la République tchèque. Vous le savez, en quelques années, ce festival est devenu une référence pour les professionnels du secteur. Helena Fantel est d'origine tchèque, elle vit depuis 35 ans en France et travaille pour la FEMIS, l'école de cinéma française, où elle est responsable du programme Archidoc. Archidoc a pour objectif de soutenir le développement de projets de films originaux dans leur approche des archives et d'aider le réalisateur à accéder au marché international du documentaire. Helena Fantel était à Jihlava ce week-end avec une dizaine de participants à cet atelier professionnel qui sont venus y développer leur projet. Elle nous a accordé un entretien qu'on écoute tout de suite.
C'est la première fois qu'Archidoc vient en République tchèque.
Archidoc existe depuis 5 ans sous sa forme actuelle. C'est un atelier qui, de développement de documentaires. Effectivement, c'est peut-être pas tellement le fait de mêler les archives avec le temps présent, mais c'est davantage sur l'utilisation créative des documents d'archives dans le film documentaire. Et d'une façon générale, sur l'écriture du documentaire et sur la recherche d'écriture innovante de films documentaires. Donc, l'atelier existe depuis 5 ans maintenant. C'est la première fois qu'on s'expatrie, si je puis dire. On est très contents. J'avais repéré le festival de Irlava comme un lieu de prédilection parce que c'est vrai que c'est devenu un très grand rendez-vous international très intéressant de cinéma documentaire. Non pas seulement parce qu'il est tourné vers les pays de l'Est, qui est pas forcément, en fait, une optique particulière d'Archidoc, mais parce qu'on a l'impression qu'il s'y passe énormément de choses, qu'il y a une énergie extraordinaire en fait. Rare, et qu'on y voit des projets, des personnes extraordinaires, et que c'est vraiment un endroit très très stimulant. Donc la première session Archidoc se déroule en 3 sessions, la première se déroulera là-bas. Mais je suis peut-être trop bavarde là.
Pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe concrètement, un tel atelier?
Archidoc s'adresse en fait à des professionnels. Ce ne sont pas des étudiants d'école de cinéma, mais ce sont plutôt des professionnels jeunes et moins jeunes. Nous avons cette année, tous les ans, nous avons certains participants qui sont, disons, jeunes depuis très longtemps, ou je ne sais plus comment on dit. Très très longtemps pour certains, et nous, au contraire, nous trouvons ça intéressant de mélanger en fait des parcours, et surtout dans le cinéma documentaire, je dirais, il y a des parcours personnels extraordinaires, des mélanges d'expériences extraordinaires. Et donc, en fait, quand on dit étudiant, c'est vraiment au sens très très large, comme on est tous des étudiants tout au long de notre vie, en fait, c'est plutôt ça. Alors, nous faisons un appel à proposition. Je devrais dire que l'atelier, c'est très important, l'atelier reçoit un cofinancement du programme Média de l'Union Européenne, de la région Aquitaine, et cette année pour la première fois aussi du ministère tchèque de la culture. Nous faisons un appel européen à proposition, donc nous cherchons des projets de films de l'ensemble des pays de l'Union Européenne, parfois même un petit peu au-delà, de personnes donc qui souhaitent être accompagnées dans le développement du film. Ensuite, nous sélectionnons 10 projets et nous accompagnons ces projets donc dans leur phase de développement. Nous ne produisons pas, nous sommes absolument pas, en fait, la FEMIS ne produit pas de films, en tout cas pas ces films des ateliers professionnels. Et donc, en 3 sessions d'environ une semaine chacune, nous aidons les personnes à définir davantage, mieux, d'affiner l'enjeu de leur projet, de déterminer le mode narratif, de préparer, soit de monter ou de remonter leur, disons, film annonce ou un trailer, comme on dit en anglais. Et dans un troisième temps, nous les accompagnons dans un pitching qui a lieu au FIPA Biarritz. Nous organisons une petite séance de pitching, mais qui fonctionne très bien. Nous préparons les personnes pendant 2 jours. Ils ont des tuteurs de pitching, donc des personnes qui les aident en fait à savoir se présenter et présenter le projet de la façon la plus intéressante possible. Et ces projets sont proposés à des diffuseurs européens ou à producteurs et ou coproducteurs internationaux également. Voilà.
C'est ça, pour expliquer aux auditeurs ce terme anglais pitching, c'est un moment très important dans la phase de création et de présentation du projet.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est une façon de présenter très très rapidement. En principe, là, classiquement, c'est en 7 minutes. Les personnes sont censées présenter leur projet, ses points forts, éventuellement donner même un avant-goût du film. Justement, c'est pour ça qu'on monte et qu'on les aide à monter ou remonter le trailer, un film annonce, donc un film qui donnera déjà un avant-goût, pas du contenu du film, mais de son mode narratif. Et de ces points qui peuvent être les plus intéressants, les plus accrocheurs. Et se présenter, alors ceci, nous n'organisons pas un marché, mais c'est une présentation à des coproducteurs ou à des diffuseurs potentiels.
Alors, parmi les 10 projets de votre atelier cette semaine, est-ce qu'il y a des projets tchèques ?
Alors, évidemment, la vie qui se moque toujours un petit peu de nous veut que justement cette année, nous n'avons pas de projet tchèque. Nous en avons eu par le passé, dont un projet extraordinaire qui est passé, entre autres, sur Arte, aussi sur la télé tchèque, certainement, sur l'inventeur tchèque des lentilles de contact souples, un film passionnant.
Monsieur Wichterlet.
Voilà, exactement, Monsieur Wichterlet. Mais cette année, nous n'avons pas de projet tchèque. Mais nous avons des projets de ce qu'on appelle, en fait, ce qu'on ose appeler les nouveaux pays. Nous en avons plusieurs cette année. Nous avons un projet letton, nous avons un projet franco-russe, nous avons un projet roumain et bien d'autres. Voilà, un projet espagnol.
Alors pourtant, on peut dire que le documentaire tchèque se porte excellemment en ce moment. Il y a eu des succès internationaux comme René, le film de Helena Tchestikova, Občan Havel aussi, qui a fait beaucoup parler de lui. Ça va bien pour l'instant pour le documentaire tchèque ?
Apparemment oui, mais bon, malheureusement cette année, ce succès ne se reflète pas dans les candidatures qui nous ont été présentées à Archidoc. C'est vrai que jusqu'à cette année aussi, c'est aussi encore une fois une petite blague que la vie nous fait, que un des tuteurs principaux, en fait l'atelier est encadré par deux tuteurs principaux qui suivent les projets sur toute la durée des 4 mois. Un des deux tuteurs a été pendant plusieurs années Stan Neumann, qui est d'origine tchèque. C'est la première fois cette année qu'il ne peut pas être avec nous parce qu'il tourne un long métrage, donc même cette présence tchèque, encore avec Stan, on plaisantait en disant que la langue tchèque allait être la langue officielle d'Archidoc, et bien même ça marche pas cette année, voilà, mais bon, c'est comme ça.
Parce qu'il faut préciser que vous-même, vous êtes d'origine tchèque.
Oui, moi-même, je suis d'origine tchèque et je vis en France maintenant depuis un nombre incalculable d'années, depuis 35 ans. Oui.
Est-ce qu'on pourrait... Peut-être brièvement, je sais que ce n'est pas évident, mais parler des bonnes recettes ou des recettes pour faire un bon film documentaire aujourd'hui.
C'est certainement l'idée de base et le mode narratif, certainement. Le mode narratif, nous pensons, bon, après, il faut se mettre évidemment aussi d'accord. Nous sommes, enfin bon, quand je dis nous, c'est la FEMI, c'est-à-dire l'école nationale de cinéma française. Nous sommes dans une démarche de recherche d'écriture singulière. Je pense qu'il y a des très bons documentaires qui savent présenter très très bien le sujet, mais qui, sur le plan de l'écriture, ne sont peut-être pas très très originaux, mais qui arrivent très bien à raconter une histoire, à présenter. Nous sommes vraiment dans une recherche, enfin je dirais pas que nous faisons les bons documentaires, mais notre optique, c'est plus d'aider les personnes qui souhaitent à écrire d'une façon, faire une recherche en fait au niveau de l'écriture. Nous accompagnons celle-là, donc forcément, si vous voulez, mon regard est quelque part formé ou déformé par cette vision-là ou par cette volonté-là. Mais bon, un bon documentaire, bien sûr, c'est l'écriture certainement avant tout, oui. Oui.
Nous sommes en 2009, année anniversaire. Dans quelques jours, nous célébrons ici les 20 ans de la révolution de velours, de la chute du communisme en général dans l'Europe centrale et orientale. Est-ce que ça se reflète dans les projets qu'on vous a présentés, par exemple, dans cet atelier et dans ce qu'on voit à Jihlava ?
Alors, à Jihlava, certainement, parce que c'est un festival qui est orienté vers les nouveaux pays. Donc, forcément, ce passé-là, il est... À Jihlava, il est extrêmement présent. Il est aussi très présent, et surtout cette année, je dirais, dans les projets qui nous ont été présentés à Archidoc. Ça, en plus, ça tombe très très bien, parce que, comme je vous disais, c'est la première fois que nous allons à Jihlava. Mais nous avons effectivement des projets. Nous avons un projet, plusieurs projets. Une jeune femme franco-russe qui travaille sur des archives de Novosibirsk, sur la vie de sa grand-mère, qui a, enfin, c'est pas forcément la chute du mur, mais bon, si on parle un peu d'une façon plus large sur le communisme et la chute du communisme. Donc elle veut démontrer sur la vie de sa grand-mère, un peu montrer sur la petite histoire d'une petite personne dont elle dit qu'elle n'était qu'un grain de sable en fait dans cette immense machinerie, aussi toute l'histoire du XXe siècle. Nous avons plusieurs projets comme ça. Nous avons un projet polonais également sur la recherche des racines juives du réalisateur franco-polonais aussi, en fait polonais, mais disons basé en France, oui, aussi. Oui.
Parler du passé, est-ce qu'on peut tenter de parler de l'avenir en ce qui concerne le film documentaire ? Alors, avec les nouveaux médias, il y a évidemment les documentaires qui sont concernés par une évolution. On ne sait pas très bien dans quelle direction, mais on voit déjà ce qu'on appelle le web documentaire. Alors aujourd'hui, qui mêle le film et puis également le multimédia, c'est-à-dire que dans la diffusion d'un film, on peut aller, je vais expliquer vraiment grossièrement, on peut cliquer et poursuivre. Il y a une arborescence qui permet d'aller d'un projet à un autre et de pouvoir élargir ce qu'un film documentaire ne permettait pas. Est-ce que c'est pour vous l'avenir du film documentaire aujourd'hui ?
Ce qui me semble certain, c'est que l'avenir, ce sont d'autres modes de diffusion que disons les canaux traditionnels. Il se trouve qu'il y a un énorme engouement, enfin là ça paraît évident, pour le documentaire en France, en Europe. On voit des festivals qui sont où les gens font, même d'ailleurs des cinémas, les gens font la queue pour aller voir des films documentaires. C'est certainement nouveau. Il y a des films qui sont extrêmement intéressants et enfin quelque part le documentaire est très très florissant. Par ailleurs, ce qu'on appelle les cases documentaires dans l'ensemble des télévisions rétrécissent à vue d'œil. Elles sont de plus en plus formatantes, disons formatées et formatantes. Et il est certain qu'il va y avoir obligatoirement, hein, par cette tension, par cette pression, il va y avoir de plus en plus, et c'est heureux d'ailleurs, d'autres modes de diffusion. Alors, ce que vous évoquez, ça c'est quelque chose de particulier parce que ça nécessite une écriture aussi particulière, une écriture interactive. Moi, ça me paraît très très intéressant parce que tout ce qui est, disons, nouveaux médias, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que c'est pas, en tout cas pour l'instant, c'est pas l'optique d'Archidoc, en tout cas pas de cet atelier-là, mais c'est certainement l'avenir du documentaire, ça me paraît extrêmement intéressant. C'est aussi donné, en fait, par les mécanismes qu'on a quand même acquis depuis plusieurs années, dès qu'on entend quelque chose, en fait, immédiatement de cliquer, de rechercher, c'est devenu, pour tout le monde, une seconde nature, quoi. Ça, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est ça.
Helena Fantel, merci. Helena Fantlova, děkuji.
Děkuji vám, že jste mě pozval.
C'était Helena Fantel venue avec Archidoc, l'atelier professionnel de la FEMIS au Festival du film documentaire de Jihlava. On termine en musique juste avant de retrouver votre rubrique touristique hebdomadaire. Salut, ahoy!
Pak liška, ta nefrčí dneska, teď je v kurzu straka a stojí ta práskačka. Paranormální je fět, zdá se, jak může vypadat poctivá práce. Mám otázku, mysel, jak bez vody může virus celou. Stačí z konta boha v modlit buchy brat a pak luštit čitru mistra Čunkoarda. Mistře, slyšte, na drátě je lid, chceme to tajemství vysvětlit.
Na Čunkoval ke dvou mega, kdo to prasne, tomu běda. Na úřadu sociálním bytka veliká, předběh na vrču nejeká.
Melon roste bez vody, kterou káže. Víno hněje, tož nalej, čiše páže. Kázat vodu pít víno a smát se, tomu říkám poctivá práce. Říká, vytáhnu ty voka třísku, sám má tam foku i pisku. Deviantně, mediálně, elegantně, trochu jako Borat, ale oficiálně. V zemi, kde politika je ten jedinej pinec, kde by mohl bátnout i lidé v kvine. Mám otázku, mistře, hello, jak bez vody může virus smelou?
Načunkoval ke dvou mega, kdo to praskne, tomu běda. Na úřadu sociální bytka veliká, předběh na vrču nejeká romíka. Na radnici byda svině, taky nemám peníze, na kouči si vypiju s tím je snáze. Na radnici byda svině, taky nemám peníze, na kouči si vypiju s tím je snáze. Na úřadu sociální
vous avez dit la République tchèque, voyagez donc. Jarka Gregorova.
Les monts des Géants, en tchèque Krkonoše, sont situés au nord-est de la République tchèque et c'est la chaîne de montagnes la plus élevée en Bohême, dominée par le mont Sněžka, dont l'altitude atteint 1602 mètres. De nombreux torrents et rivières prennent leur source dans ces montagnes, dont l'Elbe, la Petite Elbe, ou Pamumlava Jezerka, puis les rivières polonaises Kamienica et Lomnička. La rivière Mumlava est par exemple renommée pour ses cascades, se trouvant près du centre sportif de Harachov. Le cours d'eau forme au pied des différentes cascades sautant par-dessus les pierres en granit d'énormes marmites appelées aussi les yeux du diable. Par endroits, les marmites atteignent jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Sinon, bien des rivières citées font la joie des plaisanciers. Les montagnes sont idéales pour faire du ski, des balades, de l'équitation. Il y a aussi beaucoup de pistes cyclables. À noter que le parc national de Krkonoše, le Krnap, déclaré en 1963, est un des plus importants en Europe. Les monts des Géants sont divisés en trois parties, orientale, centrale et occidentale. Le centre de la partie occidentale est Harachov et Rokitnice nad Jezero, renommés notamment pour leurs stations de sport d'hiver. La partie centrale commence au gouffre de neige, en tchèque Sněžné jámy, jusqu'au chalet Špindlerova Bouda, et inclut Horní Mísečky, Lánov, Strážné, Špindlerův mlýn et Vrchlabí. Le climat des monts des Géants, au-dessus de 1400 mètres d'altitude, est assez rude et comparable au climat arctique. Souvent, il y a du brouillard et des vents soufflant très fort. Ces montagnes relativement paisibles et innocentes peuvent parfois être très dangereuses pour les touristes, malgré leur basse altitude, si l'on fait le parallèle avec les Alpes. J'ai invité à l'antenne une personne qui connaît très bien les monts des Géants occidental et central. C'est Jan Štěvíček, qui est secouriste du service du premier secours de la Bohême centrale, qui fait des sports extrêmes, la varappe, l'alpinisme, le kayak, le freestyle, le rafting, le snowboard extrême, les courses d'orientation et bien d'autres sports encore. Honza, pourquoi est-ce que tu as choisi les monts des Géants central et occidental? Qu'est-ce qui t'attire?
J'ai commencé à y aller avec mes parents quand j'étais encore un petit garçon. Et depuis, je n'ai pas cessé d'y aller. Je me suis fait des amis, il y avait des gens que j'aimais, je connaissais les propriétaires des chalets, ce qui est important car ainsi j'y avais un milieu familier, mes téléskis et mes endroits préférés, donc j'ai continué à y venir.
Tu y vas en hiver et en été. Quels sont les sports que tu fais dans les monts des Géants?
Les monts des Géants sont surtout une destination pour les sports d'hiver. On y fait le plus souvent du ski de descente et du ski de fond, éventuellement du ski alpinisme, même si cette discipline n'est pas tout à fait idéale pour les monts des Géants. Puis en été, c'est le tourisme. Les monts des Géants sont aménagés, il y a beaucoup de bons chemins que l'on peut fréquenter sans que cela ne demande trop d'efforts. Le dépassement en altitude est le seul inconvénient, mais le terrain n'est pas très difficile. Les monts des Géants sont une région belle et calme où l'on peut se balader, marcher et se relaxer sans problème.
Et quels sont précisément les sports que tu fais dans les monts des Géants?
Je suis moniteur de ski, on y fait du canoë, éventuellement du rafting, même si c'est plutôt une activité printanière, parce qu'en été les rivières manquent d'eau, et en hiver, comme je l'ai dit, je suis moniteur de ski ou de snowboarding.
Est-ce que tu te prépares aussi pour les expéditions que tu fais?
Justement, les monts des Géants sont nos plus hautes montagnes, malgré leur petite taille. Ce sont des montagnes gigantesques, c'est d'ailleurs très amusant. Mais bien sûr, en comparaison avec les Alpes, elles sont petites. Par contre, elles ont un caractère scandinave. Je me suis préparé dans ces montagnes à toutes mes expéditions scandinaves avec un grand succès. Le milieu est assez rude, les fluctuations de température assez considérables, les vents sont coupants et peuvent soufflait assez vite dans les plaines. En général, il y a beaucoup de neige, surtout sur les sommets. Donc, c'est un endroit idéal où l'on peut très bien se préparer particulièrement pour les expéditions scandinaves.
Hlavně na ty skandinávské expedice se tam připravuje velmi dobře.
Maintenant, tu vas partir en Afrique. Est-ce que tu t'es aussi préparé pour ton voyage en Afrique dans les monts des Géants?
Nous ne nous sommes pas préparés pour l'expédition en Afrique dans le monde des géants, ni moi ni personne de l'équipe. Néanmoins, lorsque j'ai été la dernière fois en Afrique du Sud, j'ai pu constater que la plus haute montagne de cette région ressemble par sa structure au monde des géants. Le paysage est ondulé, laissant sortir de temps en temps une montagne un peu plus élevée, donc le caractère est finalement très semblable.
Les gens disent souvent que les monts des géants ne sont pas des montagnes dangereuses parce que c'est des montagnes qui sont basses. Est-ce que tu le penses aussi?
Les gens font assez fréquemment cette erreur, ils sous-estiment ces montagnes. Lorsque je disais que le caractère des monts des géants était scandinave, je voulais dire par là que ce sont des montagnes basses, relativement petites, mais il y a par exemple un grand risque d'avalanche et on peut facilement s'y perdre. Parfois, lorsque je me baladais la nuit ou dans le brouillard, je ne me suis pas perdu uniquement grâce au fait que je connaissais les lieux, et lorsque j'ai perdu un peu mon chemin, je l'ai finalement retrouvé. Je pense donc que ce sont plutôt les statistiques du service de montagne qui pourraient définir le nombre de personnes qui se perdent dans les monts des géants au cours de l'année et de la difficulté de la retrouver.
C'était Jan Štěvíček, explorateur des sports extrêmes.
Nad horu svítá, začíná nový den. Slunce nás vítá. Mládenče, vstávej. Koně chců.
L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous sommes toujours prêts à recevoir vos idées, remarques et suggestions.
V košili bílé teď spí, v náručí milé a sní. V košili bílé teď spí. Až půjde do vojny švéd být.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 14.